Les séminaires du Collège de France.
On va poursuivre donc avec le séminaire. Donc j'ai déjà présenté Bruno, mais je voulais dire aussi que Bruno, c'était une rencontre qu'on fait rarement dans sa vie, 2014, dans une conférence qu'on s'est retrouvé, où quand on était face à des résultats un peu bizarres, où personne n'avait vraiment envie d'avoir confiance dans ce qu'on obtenait. Voilà, Bruno, Pascal Le Meyner, ensuite Nicolas, eux ont... ce que j'ai dit pendant la leçon, mais eux ont vraiment cru en fait qu'on pouvait en tirer quelque chose, et ils y sont toujours, et vu ce qu'ils en ont fait maintenant, c'est assez impressionnant. Et donc voilà, je pense que je vais te laisser la parole, Bruno, et je suis ravi de
t'avoir. Ok, un grand merci Lydéric de m'avoir mis au même rang que, je pense, ton épouse, que Robert et la belle électrode. Ça me fait extrêmement plaisir de... Non, en premier lieu, je ne vous cache pas que je suis assez impressionné parce que le Collège de France, c'est pas rien. Donc pour moi, c'est, même si je participe à la chaire de Lydéric, et tout l'honneur en vient à Lydéric, je suis tout de même impressionné. C'est un site qui a énormément de valeur pour tous ceux qui ont, comme moi, une formation scientifique. J'ai eu la chance de rencontrer dans ma carrière des professeurs, voilà, et je dédie, entre guillemets, cette présentation à quelques personnes qui m'ont formé, qui sont entre autres un professeur qui s'appelait Pierre Blasi, de l'école de géologie de Nancy dont je suis issu, et ensuite mon directeur de thèse qui devait pas être présent mais que je n'ai pas vu, qui s'appelle Monsieur Michel Pichavant. C'est des gens qui m'ont donné goût à la science, et je pense que vis-à-vis de tous les jeunes là qui sont là, je vois qu'il y a des jeunes présents dans la salle, ça me fait extrêmement plaisir. Croyez que la science, c'est un univers formidable. Quand on a la chance d'avoir été formé, d'avoir les outils, la formation qu'on peut avoir en France, ne quittez pas la science. Restez dans la science, restez dans ce qu'on vous a appris, n'allez pas vers la finance, tout ça. On a besoin de vous. Non, mais c'est pas une blague. On a vraiment besoin de vous. Gardez le moral. On vit une époque formidable, en fait, pour ceux qui font de la science. Parce que l'enjeu, il est majeur, il est clé. Et on n'a pas le droit de passer à côté. Et si vous avez été formé sur la science, engagez-vous, prenez, allez-y, apportez les solutions. C'est vous qui allez faire la différence, et j'en suis persuadé. Et c'est une énorme opportunité pour cette génération-là. Donc ne soyez pas déprimés, comme j'entends aujourd'hui, le monde, la guerre en Ukraine, tout ça. Ok, le monde n'est pas forcément beau, mais il y a plein de choses à faire, et c'est entre autres ce qu'on veut faire aussi avec Switch Energy. Merci. Alors, je vais essayer de passer à la diapositive suivante. Moi, l'informatique, voilà. Alors, l'intitulé, l'énergie osmotique du nanotube au mégawatt. Effectivement, on est parti de très très loin, parce qu'en fait, ça m'a fait très plaisir dans le cours de Lydéric de revoir des articles qui sont des articles que j'ai lus à l'époque. Je parle notamment d'une publication qu'il a pu faire en 2013. Mais on va revenir un peu aux fondamentaux, parce que sur l'énergie osmotique, Lydéric nous a présenté ça comme étant de récupérer l'entropie. Personnellement, l'entropie, je n'en trouve pas dans le supermarché. Je ne suis pas arrivé à en planter dans mon jardin. L'entropie, elle est partout, mais elle est nulle part. Et en fait, l'énergie osmotique, elle est bien sur Terre, donc il faut comprendre son origine. Ben, son origine, c'est le chaînon manquant. C'est un seul, si vous regardez bien, là je parle de nature, et là merci à ma formation de géologue, sur ce schéma-là, il y a toutes les énergies renouvelables d'aujourd'hui. À savoir que vous avez ici l'action du soleil qui joue sur les océans, et quand le soleil vient frapper les océans, en fait il y a un phénomène qui s'appelle l'évaporation, et l'évaporation c'est aussi du dessalement. Parce qu'en fait quand il y a un changement de phase, phase vapeur, et bien donc la source d'énergie douce, d'eau douce, c'est ni plus ni moins que les océans qui sont dessalés par le soleil. Donc vous avez l'énergie solaire qui rentre là. Après, ces nuages qui sont formés par l'évaporation, ils sont transportés par une autre énergie renouvelable qui est l'éolien, le vent, d'accord ? Ça se transporte. Et il se trouve que ça vient se condenser sur les océans. Et l'eau est stockée sur les montagnes, sur les océans, sous forme de neige, sous forme de glaciers. Et là, on va pouvoir très vite découvrir la petite sœur, qui est l'énergie hydrolienne, enfin l'hydraulique, l'eau qui s'écoule. Donc là, on a trois éléments du maillon. Et le quatrième, le chaînon manquant, c'est l'énergie osmotique. C'est celle, en fait, qui vient tout boucler. C'est-à-dire que c'est de l'eau douce, qui provient de l'énergie de dessalement qu'a produit le soleil, qui vient libérer une énergie quand elle rencontre l'eau de mer. Donc en fait, c'est une énergie naturelle, purement naturelle, qui a un cycle. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'elle a certaines caractéristiques par rapport aux autres énergies. C'est qu'elle est bien sûr renouvelable. On l'a vu dans le schéma sans CO2, bien sûr non carboné. Elle est massive, parce que Lydéric en parlait, c'est pas rien. J'ai bien aimé Robert, quand on voit Robert, ce qu'il déplace. Elle est inexploitée aujourd'hui, on ne sait pas la récolter, même si effectivement ça date des années 50, hein, les premiers travaux qui ont pu être faits. Et elle est permanente. Donc c'est des caractéristiques qui sont extrêmement importantes. C'est-à-dire que si je considère, par exemple, Lydéric le parlait tout à l'heure par rapport aux éoliennes, on voyait que les éoliennes, ben, c'est une énergie intermittente. Le soleil, c'est pareil, il est intermittent, il y a jour, nuit. L'énergie de l'hydroélectricité, elle est moins intermittente parce qu'on vient stocker. Et c'est la première énergie renouvelable aujourd'hui, hein, au niveau du globe, hein, faut bien le savoir. Et l'énergie osmotique, ben, c'est sa petite sœur, c'est celle qui est en bas et non pas en haut. Et on récupère comme ça toute l'énergie et elle est continue, permanente. Elle est souveraine aussi, c'est important, à savoir que l'énergie osmotique, elle se fait dans chacun des pays où on trouve de l'eau douce qui vient rencontrer l'eau de mer. En plus, elle est bien placée, parce que si on regarde un peu le développement des civilisations, la civilisation s'est toujours développée justement dans ces estuaires, dans ces zones-là. Si vous regardez, il y a très peu d'estuaires qui ne sont pas des zones économiques. C'est des ports, c'est des endroits de rencontre, parce que les rivières, les océans amènent des alluvions qui font que c'est cultivable. Si on regarde le Nil, tout c'est... À l'échelle de la planète, les estuaires ont toujours été, pour l'être humain, des points singuliers sur lesquels ils sont extrêmement présents. Donc je voulais revenir sur ces valeurs-là, qui pour moi sont très importantes et qui permettent de voir le pourquoi de l'énergie osmotique. C'est le chaînon manquant, c'est bien ce qu'il faut s'imprimer dans la tête. Donc de toute façon, si ce n'est pas switch, même si je suis certain que ce sera switch, cette énergie, l'homme sera amené à la récupérer. Effectivement, la science fait avancer les choses. Donc nous, ce qu'on a pu faire maintenant depuis, pas encore 10 ans, mais 7 ans, depuis qu'on a rencontré Lydéric, on a été convaincus par cette démarche-là, on a été convaincus par la science, justement, comme quoi la science pouvait apporter ces solutions-là, et on s'est engagé. Et Switch, c'est ni plus ni moins qu'une histoire d'engagement, une bande de copains, et vous le verrez. Et on essaye de structurer quelque chose avec, par contre, des valeurs extrêmement fortes. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas d'entreprise s'il n'y avait pas ces valeurs-là. Et on veut les partager avec les jeunes, les partager avec les investisseurs, les partager avec tout le monde. Mais il y a un vrai moteur, au-delà du moteur en termes d'énergie, il y a un vrai moteur, une vraie volonté humaine. Et ça, c'est, pour moi, c'est crucial, c'est essentiel dans la création d'une entreprise. Alors la ressource, comme le disait Lydéric, bah, elle est voilà, 30 000 téra, ou alors je ne sais plus combien de zéros ça fait, mais ça fait vraiment beaucoup de zéros, et par an. Donc elle est massive, ça, il faut bien l'intégrer. Et elle va venir résoudre une partie de l'équation, pas toute l'équation, comme le disait Lydéric, évidemment, c'est impossible. Aujourd'hui, on a un tel besoin en énergie qu'une seule solution ne peut pas tout résoudre. Mais par contre, elle peut y contribuer. Et c'est un peu la logique du colibri. Chacun apporte ce qu'il peut apporter, sa goutte d'eau. Et bien, l'énergie osmotique, ce n'est pas qu'une petite goutte d'eau. Si on regarde un peu les projections que vous pouvez voir ici, ça, c'est la production donc, d'électricité en 2022. Voilà, ben, 77%, ben, ça reste du fossile. Hein. Alors, le fossile, c'est quoi? Le fossile, pareil, c'est ni plus ni moins qu'une énergie qui a été stockée sous terre. Par contre, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'elle est encore stockée, mais qu'on la consomme beaucoup plus vite qu'on ne la stocke. Et c'est ça le problème. 2050, ben voilà un peu ce que ça serait sans osmotique. Enfin, tout au moins, c'est les objectifs qui sont donnés. Alors, entre cette période-là et 2050, ce qu'il faut bien intégrer aussi, c'est que la consommation prévue d'électricité double. C'est-à-dire que le gâteau, là, il est multiplié par deux, en fait, si on voulait représenter un diagramme un peu plus juste. Et voilà ce que ça pourrait être, et ce que ça va être, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, j'ai encore des doutes, mais je n'ai pas de doute, ce que ça sera avec l'énergie osmotique en 2050. Donc, on joue sur une part du gâteau, ok, ce n'est pas tout le gâteau, mais cette part de gâteau-là, on n'a pas le droit de ne pas la manger, quoi. On n'a pas le droit de ne pas aller la chercher. Elle a des vertus, j'ai rappelé encore ces vertus, massives, continues, non carbonées. Donc de toute façon, c'est un engagement, c'est un devoir. C'est de l'ordre du devoir pour les générations, les jeunes générations, d'aller chercher cette énergie-là. Vous ne pourrez pas, je m'adresse aux jeunes, continuer un développement tel qu'il est prévu aujourd'hui sans aller chercher cette source d'énergie-là. Parce que sur le schéma que je vous ai présenté tout à l'heure, il n'y en a pas 50 autres. S'il y en avait 10 autres, vous me direz, ah ben je vais plutôt aller chercher celle-là. OK, mais il n'y en a pas 50 autres. S'il y a la géothermie, OK, qui est assez proche du nucléaire, en fait la géothermie c'est juste le moteur nucléaire de la Terre, de la planète, qui fait réchauffer de l'eau, OK, il y a cette source-là. Pas simple à exploiter non plus, mais ça se compte sur les doigts de la main, les sources d'énergie qu'on peut aller chercher sans... si on veut continuer notre civilisation. Quoi. C'est vraiment une problématique de civilisation. Pas le voir autrement. Hein. Voilà. Alors l'énergie osmotique, ça paraît extrêmement simple. Si on le décrit, c'est quoi ? Bah, comme l'a exposé Lidéric, hein, c'est de l'eau douce, de l'eau salée et une membrane. Bah, on a vu que là, il se passait des choses. C'est la fameuse entropie qu'on cherche dans notre jardin. C'est cette énergie-là qu'on veut récupérer. Donc eau plus sel plus membrane égale énergie. Alors ça, c'est la vision de base. C'est une vision très simple qui est une vision d'entrepreneur. Quand je dis ça, l'entrepreneur, c'est que l'entrepreneur, il ne va pas se mettre dans la complexité de la science. Il va utiliser des visions simples pour porter son engagement, pour porter ses valeurs, pour porter son envie, sa motivation. Donc, c'est pas si compliqué ça. Il y a à partir du moment où la science va pouvoir apporter les clés, c'est pas compliqué cette énergie finalement. Pourtant, et c'est bien là, si on regarde jusqu'à aujourd'hui, là on commence à parler sous parce qu'on peut pas parler d'entreprise sans parler sous. Si on compare l'éolien, 1 million d'euros pour à peu près le coût du térawatt. 7 millions d'euros pour le nucléaire. Et l'osmotique, si on se restait sur les deux technologies essentielles qui ont été testées aujourd'hui, qui sont la PRO et la RED, on serait sur ces valeurs-là. Alors, ces valeurs-là, c'est des valeurs... C'est pareil, 1 euro, quelle est la valeur de l'euro aujourd'hui et quelle sera-t-il demain par rapport au coût de l'énergie? On peut avoir beaucoup de discussions là-dessus. Il faudra peut-être aussi un moment qu'on accepte de payer notre énergie plus cher. Ça, c'est possible. Mais quand on compare... Il y a un vrai contraste qui apparaît. Et nous, notre enjeu, comme l'a exprimé Lédéric, c'est d'arriver à baisser ce coût. À baisser ce coût par une voie scientifique, par une voie technologique, à essayer de trouver des solutions. Je reviens donc sur les deux technologies, que je ne les dirais même pas concurrentes, parce qu'en fait, elles ne débouchent pas aujourd'hui, elles ne peuvent pas d'un point de vue économique, hein, mais il est intéressant de voir un peu. Donc je reviens aux notions de watts par mètre carré dont parlait Lidéric tout à l'heure. Si on fait un peu l'historique bibliographique, donc on voit les années 50, là, dont parlait Lidéric au début, ses premiers articles, et on voit qu'à partir des années 2000-2010, on est arrivé à augmenter cette puissance sans pour autant que ce soit satisfaisant d'un point de vue économique. Donc si on regarde ces deux technologies, j'ai essayé de regarder un peu le type. Bon, ben, la PRO, on utilise la pression pour faire tourner une turbine. Comme l'a décrit Lidéric, la RED, c'est un courant ionique qu'on vient générer. Une des caractéristiques des membranes, c'est qu'en fait, la porosité, effectivement, on conçoit une membrane comme un tamis. C'est-à-dire, on joue essentiellement sur la taille des objets. Et les porosités sont de l'ordre de l'angstrom, comme l'a très bien Lidéric. On est dans le domaine, pour moi, infra-nano. La sélectivité, ben, il n'y en a pas besoin pour la PRO, elle est forte pour la RED. C'est ces membranes qui, effectivement, généralement sont bonnes en termes de sélectivité. Malheureusement, les courants ioniques dans la RED ben, sont relativement faibles, non pas parce qu'il n'y a pas de potentiel, parce que si vous rappelez ce que disait Lédéric, la sélectivité est en fait reflète le gradient et donc est la source de potentiel. Mais par contre, la porosité de la membrane à l'échelle de l'angstrom génère des résistances très élevées, ce qui fait que le courant ionique était très faible. Et les ordres de grandeur. Alors là, je parle en ordre de grandeur, non pas laboratoire. Hein. Je parle des ordres de grandeur sur le système, à peu près. C'est de l'ordre du watt par mètre carré. On n'a jamais franchi ce mur du watt, un peu comme le mur du son par mètre carré, avec cette technologie-là. Les points qu'on voit au-dessus, c'est généralement, effectivement, si on augmente le gradient salin, si on augmente la quantité de sel dans ce que chez nous on appelle le C+, qui est la partie qui représente l'eau de mer. Mais malheureusement, de l'eau de mer à 60 grammes litres, il n'y en a pas beaucoup, ça n'existe pas. Il n'y a que les rejets de dessalement qui pourraient être satisfaisants, mais qui sont limités en termes de quantité. Donc, ben voilà, le grand monsieur, il est là. Notre... je dirais, mon ami scientifique, qui est aussi un peu, avec qui j'ai eu des discussions de fond, pas mal de dimanches matin, on s'est trouvé à échanger quand j'étais confronté à des problèmes sur les premières manips, et je me rappelle de grosses discussions, notamment par rapport aux résistances de bulk, ou des choses comme ça. Alors l'IDERIC fait partie de l'entreprise, donc je considère l'IDERIC comme étant vraiment au sein de l'entreprise. Pour nous, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et c'est avec cette discussion, avec tous ces éléments-là, qu'est sortie l'idée de Switch. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu ces travaux-là, il n'y aurait pas eu de Switch. Et bien, il y a eu un article, voilà. Alors, messieurs les chercheurs, s'il y en a ici, c'est bien de publier. La preuve, c'est que c'était un dimanche matin, en faisant mon travail de biblio, j'en parlerai plus tard, tout au début de Switch, que je suis tombé sur un article et que j'ai appelé mon copain Pascal en lui disant « Écoute Pascal, là, il y a quelque chose de sérieux, j'ai un article qui semble être réellement disruptif. » Donc publier pour les chercheurs, c'est pas uniquement avoir une cotation, je connais bien le système, mais c'est aussi diffuser l'information, diffuser la science. Et il y a des gens qui lisent vos publications qui ne sont pas forcément des grands scientifiques. Il y a aussi des gens qui cherchent des entrepreneurs qui lisent, même s'il n'y en a pas beaucoup, des articles scientifiques. Et moi, je considère que ça fait partie de mon boulot. Et je pense aujourd'hui avoir lu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles. Et celui-là m'avait frappé. Et c'est ce qui a permis de lancer Switch. Alors là, je vais illustrer un peu... je ne me prétends pas du tout chercheur au même registre qu'un Lidéric. C'est pas mon univers. Moi, mon univers, c'est beaucoup plus l'univers de la science appliquée. J'ai une carrière d'ingénieur, je suis aussi docteur en physico-chimie, mais la science, pour moi, ça a toujours été beaucoup plus un outil, je la comprends. C'est comme si vous saviez lire du solfège. Pour moi, la science, c'est le solfège. Et par contre, il faut faire la musique, il faut composer. Donc, on utilise cette science, on l'exploite d'une certaine manière, on la partage avec les scientifiques et on essaye d'en faire quelque chose. Donc, je vais vous expliquer un peu la démarche qu'on a pu suivre depuis l'origine de Switch. Alors, si on cherche à lire l'article de Lidéric, je vous invite à le lire, vous verrez qu'il est assez complexe. Et en fait, pour vraiment faire quelque chose, il faut arriver à conceptualiser et à simplifier et à soutirer de ces articles des briques scientifiques clés. Moi, je me rappelle très bien être allé, je pense à peu près un mois et demi après avoir lu l'article de Lidéric. Je suis allé à sa rencontre, à ce moment-là, il était de l'autre côté de l'océan. Et j'ai pris un avion et on s'est rencontrés ensemble, c'était au Québec à l'époque. Et Lidéric, je lui ai fait verbaliser, je lui ai fait m'expliquer son article pour arriver à en sortir des briques scientifiques. Alors ces briques scientifiques, elles sont assez simples quand on regarde. En fait, il m'a expliqué, ben voilà, à l'échelle nano, il se passe, c'est une interscience par rapport à ce qu'on connaît. On connaît bien la science qui pour moi est la science, ce qu'on appelle la science des atomes, la chimie, c'est-à-dire que, en fait, là, c'est la taille des objets, c'est la structure des objets chimiques, de la molécule, de l'atome qui interfère, qui joue. Après, il y a au-delà de l'échelle micro, c'est la mécanique classique, quoi, la mécanique des fluides, ce sont les phénomènes de volume qui jouent. Et à l'échelle nano, il y a quelque chose d'extrêmement différent, c'est que ce sont les phénomènes de surface qui prévalent. Alors moi, ça me parlait, parce que j'avais déjà, en tant que géologue, on sait qu'il y a des choses, quand on étudie un peu la chimie minérale, quand on regarde des choses telles que les argiles, telles que toutes ces choses-là, on sait que la chimie de surface est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, c'était un langage qui me parlait. Et il est arrivé, très vite, on est arrivé à une notion qui est cette... en fait, si on considère un solide et qu'on le met en solution, il y a ce phénomène de couche de Debye que Lidéric... écrit rapidement sur un tableau, c'est un acquis, la couche de Debye, LD. Moi, la couche de Debye, ok, mais j'ai besoin de la voir. J'ai besoin de la voir, donc j'ai ce petit schéma en tête où je vois un solide qui a une charge de surface. Ah, charge de surface, c'était un mot important. On le verra tout à l'heure. Et bien, en fait, cette charge de surface, moi, j'explique comment la couche de Debye, c'est qu'elle vient se compenser en moins Q charge de surface dans un espace liquide. Et en fait, on s'aperçoit que cet espace liquide, s'il y a des ions, et bien, en fait, ça, c'est pour moi un liquide chargé ioniquement et qui a une charge qui est opposée à celle de la surface. Et puis après, à une certaine distance, il n'y a plus de charge parce que j'ai compensé toute ma charge de surface. Donc voilà, c'est une vision très simple. Et après ça, on en fait une nem. Je le roule, ou une crêpe pour les Bretons. Plutôt les Bretons. Ça, quand je le roule sur moi-même, eh ben, qu'est-ce que je m'aperçois? Je m'aperçois qu'en fait, dans le tube, au cœur de ce tube, qui est le nanotube de l'Idéric, hein, ben, en fait, j'ai une concentration ionisée du fait de la charge de surface, l'extraordinaire charge de surface du laboratoire qui a explosé son four, qui est arrivé chez le voisin, qui l'a récupéré, qui l'a mis par hasard dans un truc et qui l'a vu, qui l'a découvert. Là, c'est toute l'histoire et c'est la belle histoire. Mais en fait, si on s'aperçoit que le diamètre de ce tube fait deux fois l'épaisseur de la couche de Debye, eh bien, dans ce tube ne peut rentrer qu'un liquide chargé. Voilà, donc ça c'est déjà quelques clés avec lesquelles j'ai joué. Nous avons joué, parce qu'après j'ai pas pu le faire tout seul. Et après il m'a expliqué d'autres phénomènes que j'ai compris, qui étaient, voilà, si c'est un nanotube et que je viens exercer une pression, ben, l'écoulement il se fait avec cette forme-là, cette forme d'ogive en fait, parce que j'ai du frottement de surface. Et par contre, quand dans ce même nanotube, là, avec les solutions ionisées, si je mets un gradient de concentration, eh ben, il a découvert que le moteur, il se faisait dans les bordures, dans cette fameuse couche de Debye, et qu'en fait, le front, il évoluait de manière complètement différente. Donc en fait, ça veut dire quoi? Et il me l'a encore expliqué, on en a discuté. Ça veut dire qu'il y a ce phénomène d'osmodiffusion. Voilà moi comment je le vois. C'est en fait, d'un côté, on est très concentré, d'accord? On a une couche de Debye. Alors la couche de Debye, elle est sympa parce qu'en fait, plus c'est concentré, plus elle est fine. Donc là, c'est mon côté concentré, là, c'est mon côté faible concentration. Et là, après, elle est beaucoup plus large. Et en fait, j'ai un déséquilibre au sein de ma couche de Debye qui fait que mes ions, bah, ils veulent toujours s'équilibrer. Et en fait, ils diffusent du côté concentré vers le niveau, vers le côté basse concentration. Ça, c'est les briques. Et après, ben, on arrive complètement à comprendre comment, dans un nanotube, en mettant un gradient de concentration, j'arrive à générer un courant ionique. Ça, c'est pas mon invention. Mais moi, c'est ce avec quoi je suis parti du laboratoire de l'Idéric, je suis parti des discussions, c'est ce que j'ai emmené dans mon entreprise, c'est ces briques-là. Et ces briques-là, elles sont... On en discute même encore aujourd'hui. On en discute même encore aujourd'hui. Et quand je parle d'aujourd'hui, c'était avec une discussion avec Nicolas d'hier soir. Elles sont immuables. Elles n'ont pas changé, elles ne changeront pas. Et c'est à moi, c'est à nous, quand je dis au sein de l'entreprise, de faire avec ça. Donc en fait, il faut traduire la science en règles du jeu. On joue. C'est-à-dire que Lédéric nous a dit, voilà, moi je vous apporte un Lego. Voilà une brique, telle forme. Ben, la recherche appliquée, ça consiste pas à mettre en cause la brique, hein, absolument pas. La brique, je la prends, et moi, ce que je fais, eh ben, on compose avec ces briques-là. Et la vision recherche appliquée, alors bien sûr, il faut comprendre. Je pense à peu près comprendre. Lédéric m'a assez peu surpris pendant son cours. Il y a assez peu de moments où j'étais désarçonné. Mais on ne joue pas dans la même catégorie. Et une entreprise, elle ne fait pas de la science fondamentale. La science appliquée, c'est vraiment cette logique-là. C'est de se dire, je m'appuie sur des fondamentaux, j'ai une énorme confiance dans la personne qui m'a apporté ces briques, parce que c'est vrai que si un jour la brique s'effondre, tout s'effondre. Mais ça passe aussi par cette confiance d'homme, en fait, de parler le même langage, et c'est comme ça que ça se construit. Donc en fait, moi j'ai traduit son article en espèce de règles du jeu. Il y en a quatre que j'ai notées ici. C'est ce qui m'a semblé en premier, voilà, un nanopore plus une densité de surface élevée égale une sélectivité ionique. Voilà, c'est ce que ça veut dire. Un gradient de salinité, ben, c'est une source de potentiel. Lédéric nous l'a expliqué, différence de potentiel chimique, voilà, simple. 1 plus 2 égale fort courant ionique, c'est tout simple. Et 4. Pmax égale U carré sur 4R. Je pense que tout ça, vous l'avez vu dans le cours de Lédéric tout à l'heure. C'est les seules formules à peu près qu'on a retenues avec lesquelles on joue tous les jours chez Switch pour l'aspect membranaire. Et après, ben, qu'est-ce qu'on fait? On joue le jeu. On a les règles du jeu, on a les briques. Et c'est quoi jouer le jeu? Il y a un point très important qui est là. La bibliographie. Ça va vous paraître surprenant. Je lis très très peu, quasiment pas de bibliographie dans le domaine de la nanofluidique. J'ai un expert, il est là, il m'a expliqué et tout. En fait, pour pouvoir créer, pour pouvoir inventer, il faut avoir au sein de l'entreprise un espèce de hub de science. Parce qu'aujourd'hui, les sciences, comme le dit Lédéric, où les scientifiques, si je vais m'adresser effectivement à tous les grands noms, Patrice Simon, tous les gens du Collège de France, la science est très spécialisée. Or, une entreprise, elle ne doit pas être spécialisée. Bon, pour que mon système marche, j'ai besoin de tout. Donc, en fait, je lis beaucoup plus d'articles dans des sciences connexes, à côté, et je vais prendre l'exemple de la charge de surface, le nitre de bore hexagonal, dont parlait Lidéric, là. Ben, quand Lidéric m'a dit « Ouais, mon nanotube, je suis venu le voir », je lui ai dit « Mais c'est quoi la caractéristique, quoi ?» Alors, il y a le nanotube, ok, puis après, il m'a lâché le mot « charge de surface ». Eh bien, la charge de surface, qu'est-ce qu'on fait? Ben, à quoi ça sert, la charge de surface? Ben, en fait, on s'est aperçu, et la première idée qui nous était venue, il y a un passé historique, parce que j'ai eu la chance de naviguer, de faire ça, mais en fait, c'est que la charge de surface, c'est aussi bactéricide. Les bactéries, hein, si vous regardez, c'est des, pour les tuer, elles ont une carapace qui est généralement avec une charge de surface très élevée. Quand on veut tuer des bactéries, on utilise des produits qui viennent les tuer en les fixant avec une charge de surface élevée. Donc en fait, la recherche du matériau, elle n'a pas été à la chinoise, comme le disait Lédéric, où eux, ils prennent Mendeleïev, le tableau, ils screenent. Ils ont 5000 ingénieurs, là. Les ingénieurs, ça se vend au millier. Vous en voulez 1000, 2000, 3000. Nous, on en a 1, 2, 3, 4, c'est déjà beaucoup. Et donc, en fait, on fait un préfiltre. Et ce préfiltre, il peut venir de la biblio, et après, il vient de ces espèces de raccourcis quand on va réfléchir sur une thématique autre, décalée. Mais la biblio sur les aspects charges de surface, vous arriverez très vite, vous verrez, à cette notion de bactéricide. Et bactéricide, ben, ça mène à quoi? Bah, moi, intuitivement, je savais que pour être navigateur, que les antifoulings de bateaux à l'intérieur ont des oxydes qui ont ces propriétés de charge de surface. Il y a effectivement les verres auto-nettoyants de Saint-Gobain. Et en fait, ça nous amenait au TiO2. Donc le TiO2, on n'y est pas arrivé. J'ai pas acheté une pièce en l'air en disant « Ah, TiO2 !» J'ai pas screené les trucs. Mais en fait, c'était une vision dérivée. On prend une valeur, on prend une brique, charge de surface, ok, pourquoi la charge de surface? Parce que je veux que mon tuyau soit chargé, je veux qu'il soit sélectif. On fait beaucoup de biblio et on en sort des choses. Alors ça nous a amené assez vite, comme le montrait avec Frédéric, ben après on continue quoi. Mais on continue, alors ça veut dire quoi continuer? Ben, en fait, une fois qu'on a ça, on a la chance en France d'avoir beaucoup de laboratoires, beaucoup d'entités, donc on ne fait pas tout par nous-mêmes. Donc l'idée, le concept m'était venu de créer des membranes nanoporeuses avec du TiO2. Ok. Qui sait faire des membranes nanoporeuses? Ben, il y a le CEA qui savait faire des membranes trackage. Je suis allé voir Madame Blanchard, je peux vous dire. Je dis voilà, bonjour Madame Blanchard, je voudrais bien faire des membranes nanoporeuses. Elle m'a dit oui, il y a la technique trackage, si vous voulez, je vous donne une belle cellule pour faire des cellules trackage. Je l'ai encore au labo, on l'a fait. Puis après, je voulais déposer du TO2, mais je suis allé voir un autre laboratoire, Institut européen des membranes. Il y a un gars, Michel Annie, qui en plus avait fait celui qui avait fait exploser le four. Là. Ben, il faisait après du TO2 déposé par une méthode qui s'appelle l'ALD. Donc ben, je suis allé le voir, je dis, est-ce que tu peux me déposer du TO2 par ALD dans un truc? Et on a fait les premiers essais avec Lidéric, et ça, c'est arrivé. À un moment, et Lidéric m'a rappelé, ou même c'était Alessandro, je m'en rappelle, l'idée elle datait du mois d'avril-mai, et au mois d'août, j'ai eu un coup de téléphone de l'équipe. Il me disait, bah, écoute, les premières membranes, on voit du potentiel, on te confirme qu'elles sont sélectives. Alors on a fait toute la démarche, et là vous voyez ici les puissances, hein, on arrivait à des puissances qui étaient au-delà de 100 watts par mètre carré, je parle bien des puissances membranaires. Donc ça a nous démontré que déjà toutes les briques de Lédéric étaient bonnes. Économiquement, ça ne tenait pas la route. Donc il y a deux manières de voir les choses. Ah, bah on s'arrête, c'est catastrophique. Non. Nous, chez Switch, on a fait l'inverse. On a dit, on a vu le verre plein et pas le verre vide. On s'est dit, mine de rien, on vient de faire les premières membranes. Pas loin économiquement, mais avec d'autres matériaux, avec des multipores, on a été capable de les faire à l'échelle de plusieurs centimètres. Ça, c'était une première mondiale, déjà. Donc, on s'est dit, la voie est la bonne. Par contre, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Ben, on baisse pas les bras et on retourne. C'est-à-dire, on rejoue, on réimagine et on reteste. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a poussé le bouchon encore un peu plus loin. C'est-à-dire, ben, OK, ça marche à une échelle... parce que la petite membrane, là... Ça, c'est fait sur un filtre Büchner. Pour ceux qui sont dans les labos, là, c'est 4 cm de diamètre, à peu près, vous savez. Donc ça, c'est une solution de cellulose modifiée chimiquement pour qu'on ait bien ce qu'on veut, qu'on filtre, et hop, on obtient une membrane. Ben, tout ça, on peut ensuite le répliquer à l'échelle supérieure. Et on a fait la première membrane métrique. Déjà, c'était un hourra dans l'entreprise. Alors, chaque fois qu'il y a une réussite dans l'entreprise, hein, il faut le fêter, hein, parce que des échecs, il y en a beaucoup. Hein. Donc, quand on réussit, on se le dit entre nous. Hein. Il ne faut pas oublier de le dire. Parce que si on... Ouais, quand ça arrive, c'est sympa, il ne faut pas le louper. Quoi. Et là, ben, c'est la fameuse photo. Alors, ce qui est plaisant, c'est que... ici, là, c'est Benoît. Benoît, c'est le premier étudiant que nous avons recruté, postdoc, ingénieur, qui sort du laboratoire de Lydéric Bocquet et qui aujourd'hui est un de nos directeurs du développement. Et il a entre les mains la première membrane. Il était. Alors ça a été fait au VTT en Finlande parce qu'on a voulu faire ça sur une technologie pilote. C'est pas si facile de trouver un outil pilote pour faire des membranes par casting. Donc une fois de plus, ben, on a cherché. Pagora nous a dit non, je peux pas, j'ai pas l'outil. Ben, qu'est-ce qu'on a fait? On a regardé dans le monde où on peut, patati patata. On a appelé, on a osé, on a négocié. Voilà, et on a fait nos premières membranes, donc en cellulose chargée, qui permettent d'appliquer les quelques briques de Lydéric. Ça, c'est la logique. Les éléments clés, bibliodécalé. Quand je dis bibliodécalé, c'est ne pas faire de la biblio uniquement dans votre domaine. Vous allez être le meilleur, donc de toute façon, vous n'allez plus rien apprendre, donc ça ne sert plus à rien de lire. Il vaut mieux apprendre à côté. Donc, lire à côté, ça c'est crucial, parce qu'en fait, il faut faire ce hub scientifique, c'est une clé. Et aujourd'hui, je peux vous dire qu'on arriverait à regrouper énormément de choses si les gens faisaient un peu ce travail-là. Deuxièmement, s'adresser aux experts, hein, pas réinventer le monde, hein, sinon ça prendrait trop longtemps. C'est-à-dire que si j'avais voulu mettre en œuvre moi-même, une nanocellulose adaptée, peut-être, je suis allé voir les gens qui savaient faire. Voilà, allez hop, on leur explique, on parle. Voilà notre projet, on se présente. Pas hésiter en cas d'échec à revenir en arrière et faire tout ce travail de créativité. Ce travail de créativité, avec tous les côtés frustrants que ça peut avoir, parce qu'en fait, il y a un moment, il vaut mieux avoir trop d'idées que pas assez. Et par contre, il faut sélectionner ses idées, parce qu'on est quand même dans une recherche d'efficacité. Donc, il faut que tous les critères soient cochés au moment où on a des idées. Là, je vous ai présenté un peu comment on a joué le jeu dans le terrain membrane. Mais comme le disait bien Lydéric, ici, vous avez ça a représenté le schéma donc équivalent à celui de la RAID, mais cette fois-ci avec des membranes au lieu des membranes switch, c'est-à-dire des membranes avec nos deux bases à nous. Et y a plein d'autres problèmes, comme le présentait Lydéric, c'était une de nos grosses discussions, en fait, c'est que la résistance de membrane, elle n'est que là. Et si on veut avoir un système puissant, en fait, j'ai tout un système d'électrodes en série, puisque c'est un système en série. Donc, il y a d'autres résistances. Il y a les résistances dites de polarisation, les fameuses couches, les boundary layers, qui peuvent nous poser problème. Et après, il y a la fameuse résistance que nous, on appelle résistance de bulk, qui, en fait, est cette résistance de l'espace à basse concentration, parce qu'il faut bien faire écouler dans cette partie-là, il faut bien faire écouler la solution. Ça représente une vraie résistance par rapport à l'ensemble du système. De la même manière, je ne l'exposerai pas ici, et ce qui est le plus rigolo, et ce qui est le plus marrant, enfin quand je dis rigolo, oui, parce qu'il faut de l'enthousiasme quand on fait une entreprise, donc les termes de rigolo et marrant, ils sont bien posés, c'est que c'est la même science. C'est-à-dire qu'on est arrivé à résoudre ces problématiques-là, de bulk, en fait, en raisonnant, une fois de plus, à l'échelle nano-fluidique avec la physico-chimie des surfaces. Considérer que la problématique qu'on a résolue dans les membranes, c'est la problématique dans les milieux confinés, donc dans le nanopore, la problématique de bulk, c'est la même physico-chimie, mais en système ouvert. Et en fait, on est arrivé, par une voie que je ne détaillerai pas, parce que le brevet vient juste d'être déposé, à générer des autoroutes ioniques qui font qu'en fait, un ion qui traverse ma membrane, il traverse très rapidement la partie faiblement concentrée pour aller rejoindre l'autre membrane. Donc, j'ai baissé ma résistance, donc j'ai augmenté ma puissance. Après, il y a effectivement la résistance d'électrode. Il y a la fameuse résistance de polarisation qui est très très embêtante, celle-là, parce qu'il faut aller renouveler le flux en surface de la membrane. C'est des choses pas simples, c'est des phénomènes mécaniques, mais qui jouent encore à l'échelle nano. Et c'est qu'avec ce système-là qu'on est arrivé aujourd'hui à avoir je dirais, notre premier système fonctionnel qui permet de générer des puissances au-delà des autres technologies développées. Après, il y a quelque chose que j'ai voulu mettre ici. Il y a cette règle du jeu qui est Pmax égale U carré sur 4R. Le U, là, on voit bien que c'est... Donc c'est le potentiel. Hein. Il est directement lié. C'est un log de C plus sur C moins à la concentration. Mais si on raisonne en fait en puissance, je vais avoir de la puissance. Quand est-ce que je vais avoir de la puissance? Je vais avoir beaucoup de puissance quand je vais arriver à mélanger mes deux. En fait, ça s'auto-détruit. C'est-à-dire que pour générer de la puissance, je détruis mon gradient puisque je fais passer du C plus vers le C moins. Donc je vais baisser mon potentiel. Or, si je veux de la puissance, mon potentiel devrait être élevé. Mais en même temps, en dégradant mon gradient, c'est-à-dire en faisant passer du C plus dans C moins, ma résistance de bulk, elle est plus conductrice parce que j'ai des ions qui se sont accumulés dans le C moins. Donc il y a tout un espace de rapports de proportions qui sont liés au gradient, qui sont liés aux vitesses d'écoulement, qui sont liés aux matériaux, qui sont liés aux distances à interspesseur, qui vont rentrer en ligne de compte. Donc là, on arrive dans un système complexe. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en fait, le raisonnement en Pmax, qui est la puissance max, qui est un critère important, il n'a pas forcément tout son sens, parce qu'on aurait plutôt intérêt, pour maintenir un Pmax élevé, à ne pas dégrader son C-, c'est-à-dire en fait à récupérer très très peu d'énergie. Puisqu'en fait, l'énergie, c'est quand même l'énergie de mélange. Donc il faut bien qu'à un moment dans mon système, pour récupérer de l'énergie, il faut que mon C+ et mon C- se mélangent. Donc il va bien falloir que j'accepte que mon potentiel diminue, et il va falloir trouver le juste milieu. Donc on est dans tout un espace de courbes à plusieurs dimensions qu'il va falloir optimiser. Et là, c'est de la complexité. Toute cette complexité, on est loin de la science fondamentale. Par contre là, on rentre dans le domaine de ce que j'appelle moi le développement procédé, c'est-à-dire que c'est plus le même type d'ingénieur, ce sont des ingénieurs qui pour nous vont faire du développement de technologie, on va faire des tests, on va essayer, mais on ne remet pas en cause les principes fondamentaux. Et on cherche des optima, pour optimiser le système d'un point de vue économique et quantité d'énergie récupérée. Donc ça, c'est une deuxième phase de travail qu'il faut prendre dans l'entreprise. Donc voilà, grosso modo, là j'ai remis sur un schéma la roadmap de Switch. Donc là, c'est le début, c'est 2015, c'est l'article de Nature avec l'IDERIC. Le TiO2, membrane biosourcée, production industrielle. Le premier système, alors iNOD, Ionic Nano Osmotic Diffusion, c'est comme ça qu'on a labellisé notre technologie. Et là, c'est le premier prototype complètement dimensionné, avec des équipes design, avec d'autres équipes qui sont venues nous aider à faire ça, produit par iNOD, avec toute la technologie propre à Switch. Vous voyez que dans la photo précédente, c'était l'univers virtuel, parce que ça, c'est une image 3D que nous ont fait nos ingénieurs de conception. Et ce qui est important, c'est que traduire le virtuel en réel, et ça, c'est le dernier prototype, 400 membranes qui a été monté chez Switch il y a 10 jours, si je ne me trompe pas, Nicolas, c'est ça. Là, voilà, et ça, c'est du réel, donc c'est un vrai système. La dynamique de l'entreprise, c'est d'avoir transformé justement ce domaine conceptuel, ce domaine scientifique, en quelque chose de concret, de réel, avec quoi on peut jouer. C'est certainement pas le système final. J'aimerais bien savoir quelle était la première puissance faite par le premier panneau solaire qui a pu exister. Ça, c'est comme le premier panneau solaire. C'est le premier stack, c'est le premier système qui a permis de générer de l'énergie osmotique. Et franchement, on en est super fiers. Voilà, je pense que c'est la notion de fierté est quelque chose d'important. C'est une arrivée. Vous voyez peut-être pas les dimensions, mais ça fait déjà au moins... Ça doit faire à peu près, je pense, 40 cm. Et là, il y a 400 membranes empilées, à la main. Il ne va pas falloir que ça dure, parce qu'un pile à la main, c'est bien compliqué. La plateforme technologique Linode, c'est quoi? C'est une technologie qui devrait être 10 fois moins chère, 20 fois plus puissante. Alors, j'ai mis 98% respectueuse de l'environnement, parce que je n'ai pas voulu faire de... Il y a certainement, on doit prouver 2% qui font, je ne sais pas, sur les matériaux, tout ça. Mais par contre, un énorme point, c'est qu'elle est 100% modulaire. Quand je dis 100% modulaire, c'est qu'en fait, on va pouvoir implanter des centrales osmotiques avec des briques qui se posent les unes sur les autres. Et ça, c'est un point très fort dans le domaine des énergies renouvelables. Vous n'allez pas faire une centrale nucléaire modulaire. On n'arrive pas à faire des petits... Voilà. L'éolienne, elle est modulaire, mais enfin, quand on voit les champs, c'est à peine modulaire. Le panneau solaire l'est à peu près, je pense. Mais c'est vraiment un point fort. Alors, vous avez vu en haut, j'ai transformé, c'était bien une plateforme technologique. Comme le disait Lédéric, on est aujourd'hui... On garde au sein de l'entreprise un département innovation. Ce département innovation, qu'on appelle expérimentation, il travaille sur deux sujets actuellement, qui sont les chaleurs perdues basse température. Alors, on est sur une technologie relativement proche, mais différente de celle qu'a testée Lédéric. Il y a certains inconvénients dans ce qu'a montré Lédéric, qui sont notamment les cinétiques de diffusion, tout ça. Donc, on est sur d'autres techniques. Ça vient de démarrer et on est aussi sur la production d'hydrogène vert parce qu'effectivement, il faut bien voir qu'on vient de générer des courants ioniques. Donc, on a une source de potentiel naturel en milieu aqueux. Donc, effectivement, si je remplace mes électrodes par de l'eau, je vais dégager de l'hydrogène et de l'autre côté, je peux dégager de l'oxygène si j'arrive à contenir le chlore qu'il y a dans l'eau de mer. Et aujourd'hui, il y a des avancées qui sont faites qui démontrent que je devrais être capable de pouvoir produire de l'hydrogène et de l'oxygène, et en plus, non pas consommer de l'électricité, mais produire de l'électricité. Donc je consommerai mon électrolyte qui est de l'eau. Ça, c'est une thématique qu'on veut aborder assez rapidement chez Switch, qui me paraît extrêmement prometteuse. Donc c'est pour ça qu'on parle aujourd'hui de plateforme technologique. C'est la vision qu'on a au sein de l'entreprise. Bien sûr, il y a l'énergie osmotique, mais il y a bien plus derrière, grâce aux sciences de mise en œuvre. Alors là, je vais vous parler, ça va être un peu plus rapide, et puis je ne suis pas forcément le mieux placé que ça, Nicolas le fera peut-être mieux que moi, mais c'est sur la logique, comment passer du laboratoire à l'entreprise. Il y a quelque chose d'extrêmement important, c'est de construire un écosystème évolutif et performant. On ne fait rien tout seul, j'ai déjà un peu expliqué tout à l'heure. Ben voilà un peu ce que c'était Switch de 2017 à 2020. Je vais me mettre ici parce qu'on était trois. Voilà, vous avez Switch 2017-2020. Nous étions trois. On a déposé quand même, je crois, trois ou quatre brevets à l'époque. On n'avait pas beaucoup de sous. On a levé 1,4 million, ce qui n'est pas énorme. Et en fait, on est arrivé jusqu'aux membranes celluloses. Donc on est arrivé d'abord à séduire des investisseurs. Bon, c'était pas beaucoup d'argent pour eux. On a gagné beaucoup de concours, le concours mondial d'innovation. Il y a de très bons outils en France qui sont BPI, qui sont tous ces gens-là, qui sont pour vous accompagner. Et ils apportent, quand on lève 1 euro public, 1 euro privé, on arrive grosso modo en France à lever 1 euro public. Il faut le savoir, il faut l'utiliser, il faut savoir se vendre, il faut savoir bien communiquer. Mais c'est des outils extrêmement efficaces et on a la chance d'avoir ça en France. Donc il ne faut pas hésiter. Voilà un peu ce qu'était l'environnement scientifique avec lequel nous avons travaillé. Quand je vous disais qu'on ne voulait pas rester seul, ça, c'est tous les gens avec qui on a travaillé sur 4 ans. Ça passe par un nombre... et ça, c'est très important de le construire. On n'est pas tout seul. Ça coûte beaucoup plus cher de faire tout seul. Il faut arriver à trouver les partenaires, poser les limites de ce qu'on veut faire avec eux, garder ce qu'on doit garder chez nous, parce que l'IP, les brevets, c'est très important. Mais savoir construire cette sphère-là, c'est essentiel si on veut développer une entreprise. Tout au moins dans le domaine de l'high-tech. Sinon, on ne peut pas le faire. Je vous le dis, sinon c'est impossible. On peut, et tous ces gens-là, c'est assez rigolo, ils sont tous de domaines différents. Hein. Pagora, là, c'était la cellulose. VTT, c'était pareil, c'était pour la cellulose. Tiens, Solvionic, c'est les liquides ioniques. IT4IP, les membranes traquettes, je peux tous vous les faire, je les connais par cœur. Mais ça, il faut aller, si on ne construit pas ça, on ne développe pas une entreprise. L'innovation, on ne peut la sortir que comme ça. On ne peut pas tout faire soi-même. Par contre, trouver des partenaires, savoir leur parler, savoir négocier, savoir discuter, savoir expliquer, savoir séduire, tout ça, ça fait partie du boulot du chef d'entreprise. Ben voilà, après 2021-2022, donc déjà, ça change d'échelle. Hein. Là, je pense qu'on devait être une vingtaine à peu près. On change d'univers. À ce moment-là, Moi, le scientifique que j'étais, j'ai passé la présidence à Nicolas, qui est derrière nous, tout simplement. Pourquoi ? Parce que, enfin, la direction générale plutôt à Nicolas, parce que moi, je ne suis pas directeur général, je suis plutôt un scientifique. Je pouvais mener la barque jusqu'à ce moment-là, et après, je transmets, parce qu'il y a une entreprise à développer, c'est un autre métier, c'est d'autres experts, il faut savoir s'entourer, il ne faut pas avoir d'ego, il faut rester dans la boîte, il faut construire ensemble. Un point sur lequel qui me paraît extrêmement important dans la création d'une entreprise, et notamment pour les jeunes ingénieurs. Les soft skills. Alors, en français, on dirait un peu les qualités humaines ou ces choses-là. La science, nous, quand on recrute, quand on recrute quelqu'un, c'est un prérequis. C'est-à-dire qu'on va prendre des très bons scientifiques. Il y a beaucoup de très bons scientifiques. Par contre, une entreprise, une start-up, l'image de la start-up, elle est assez rigolote. D'ailleurs, il y a des gens qui disent « Ouais, c'est bien, c'est une boîte de jeunes, on va s'éclater et tout. » Attendez, les gars, il y a des objectifs. Il faut faire, on a des sous, on gagne pas d'argent. On ne fait que dépenser de l'argent, donc on fait attention à comment on le dépense. Il y a énormément de champs de contraintes. Donc les propriétés essentielles, c'est quoi ? C'est un, l'engagement. D'ailleurs, nous, quand on recrute quelqu'un, il s'engage dans la boîte. S'engager, ça veut dire « J'ai envie de faire, je viens avec vous. Je suis prêt, j'y vais, quoi. » C'est une notion qu'on connaît bien dans le domaine de l'escalade. Je ne sais pas, les gens qui en font, c'est quand on veut faire, on s'engage, on va chercher une prise. On prend un risque. Il y a cette notion d'engagement. Créativité. Ça correspond un peu à ce que je disais tout à l'heure, être capable d'aller chercher des idées à côté, avoir des courts-circuits, monter tout ça. L'esprit d'équipe. Ben oui, on ne fait rien tout seul. Et on a des collègues. Alors l'esprit d'équipe, ça veut dire plein de choses. Hein. Ça veut dire qu'on peut être leader, mais on peut aussi être suiveur. Il y a des bons leaders, il y a des bons suiveurs. Il faut juste se positionner à sa juste valeur, avec sa vraie valeur, avec sa vraie personnalité. Curiosité, ben ça c'est un moteur. Hein. C'est le moteur de la créativité. Si on n'est pas curieux, autant rester chez soi. Quoi. Parce que vous n'allez pas faire chez Switch ce que vous avez fait avant. Donc on va vous apprendre à faire des choses différentes, mais vous allez aussi nous apprendre à faire des choses différentes. Donc ça, il faut amener sa curiosité. Là, je m'adresse aux jeunes. L'ambition. L'ambition, c'est pas un problème. C'est jamais un problème. Il y a des gens qui ont les dents longues, qui veulent avoir quelque chose. Moi, je trouve ça très bien que des jeunes aient de l'ambition. Parce qu'au moins, c'est un engagement, c'est une volonté. Et si l'entreprise se développe, on saura répondre à leur ambition. Il y a des gens qui peuvent voir ça comme un handicap, d'avoir des jeunes ambitieux. Non, moi, je trouve que l'ambition, ça traduit une vraie volonté, un engagement. Et puis après, il y a cette notion qui est très importante, qui est la résilience. Être capable de résister, parce que c'est pas simple. Comme je vous disais tout à l'heure, on fête les bons événements, mais il y en a pas mal, il y a pas mal d'échecs, il y a parfois où c'est dur, parfois où c'est difficile, et il faut être capable d'accepter ça, de rester positif, de construire. Il n'y a rien de simple, c'est pas vrai, la start-up, c'est pas l'univers... non. Ça, c'est... je pense que même de l'autre côté des États-Unis, ça, ils ont revu un peu le concept. Hein. Voilà, donc ça c'était les valeurs. Donc Switch, ça c'était le début d'année. Donc c'était en janvier. Là j'ai rajouté plus 8 parce qu'aujourd'hui on est au mois de mars. Donc là c'est 40. Voilà. Les compétences, nanotechnologie, électrochimie, conception, design industriel, 10 nationalités, 22% de femmes, c'est pas assez, on en cherche, bienvenue. 30% de PhD. Objectif, 500 à 2030. Vous voyez là, c'est le mur de nos locaux. On a déménagé. Avant, on était dans un truc de 100 mètres carrés. Aujourd'hui, on a pris des beaux locaux. Voilà. Donc, c'est aussi ça, construire une entreprise. C'est cette dynamique-là. Tous ceux qui sont là répondent aux critères que j'ai évoqués tout à l'heure en termes de soft skills. Tout au moins, on fait tout pour. Après, il faut construire l'entreprise. Donc là, je viens sur d'autres concepts qui ne sont plus du tout de la science. Il y a la conception, c'est un peu ce dont on a parlé tout à l'heure. Hein. Après, il y a le domaine de la production, c'est-à-dire qu'il va falloir produire. On n'est pas là pour que concevoir, hein. Ce n'est pas notre objectif. Puis après, il va falloir déployer. Et tout ça, ça nécessite beaucoup d'anticipation. C'est-à-dire qu'on ne fait pas les choses les unes après les autres, on fait tout en même temps. Parce que sinon, ça prendrait beaucoup trop de temps. Et je pense que vous êtes assez d'accord avec moi. Notre environnement n'a plus le temps d'attendre l'énergie osmotique. Hein. L'énergie osmotique, ce n'est pas pour 2060, hein, parce que sinon, ça sera déjà trop tard. Donc, si on veut répondre à ces urgences, si on veut tout faire, on est obligé d'être très ambitieux, on est obligé de se fixer cette roadmap-là, on est obligé de porter cette vision-là, qui est, ce qu'on dit avec Nicolas, une position très penchée en avant, l'essentiel n'étant pas de tomber, mais d'arriver à avoir cette dynamique-là. Il y a un autre aspect dont a parlé brièvement Lydéric et sur lequel Nicolas a fait un travail fabuleux, je veux dire, c'est tout l'aspect réglementaire, parce qu'effectivement, l'énergie osmotique, ben, je pense que vous n'en connaissez pas grand-chose, personne n'en connaissait, et aujourd'hui, on n'aurait même pas eu le droit de la produire si on la produisait comme ça. Donc il y avait tout le travail réglementaire qui a été fait au niveau européen, au niveau français. C'est un autre versant extrêmement important si on veut que l'entreprise construise réellement quelque chose. Après, ben, je vous parlais tout à l'heure du périmètre scientifique. Ça, c'est mon domaine. Mais après, l'entreprise, elle en a d'autres. Il n'y a pas que le domaine scientifique. Hein. Il y a les partenaires institutionnels. Ben oui, on a une région, on est breton. Bon, fier de l'être, ouais, pas plus que ça, mais breton quand même, donc on le valorise. Il y a l'ADEME, qui nous a bien accompagnés. Il y a BPI, j'en parlais tout à l'heure. Il y a l'Europe. Il y a des gros outils de financement. Après, ben, il faut bien trouver des financements parce qu'aujourd'hui, on ne gagne pas, on ne fait que dépenser. Hein, on dépense même trop, hein, on n'arrête pas de se le dire. Donc, on est très vigilant là-dessus. Mais donc, il faut aller chercher des gens qui nous croient, des gens qui investissent, des gens qui se disent, eux, sont capables, on a envie avec eux. Encore là, il y a une notion d'envie qui est très importante, donc il faut communiquer cette envie. Et après, ben, il faut aussi des partenaires industriels parce que cette chose-là, on ne la fera pas tout seul. Même si on a pour ambition d'être producteur d'électricité, on n'a pas pour être ambition d'être vendeurs de technologie, parce que les vendeurs de technologie ne gagnent jamais d'argent. Vous pouvez regarder les belles turbines de General Electric, c'est pas eux qui gagnent de l'argent avec, c'est ceux qui les font tourner qui font. Et nous, de toute façon, on sait très bien que si on veut que cette énergie sorte, si on ne fait qu'attendre les autres, on attendra encore longtemps. Donc il faut qu'on soit la locomotive, il faut qu'on soit les provocateurs. On est volontairement provocateurs dans notre position et notre discours, mais il n'y a que comme ça que ça pourra avancer. Puis après, ben, il y a les partenaires science, innovation, qui sont présents. Après, c'est aussi construire un conseil d'administration. Ça va vous paraître anecdotique, mais un conseil d'administration, c'est pas neutre. Donc, on va chercher des gens, on va chercher des compétences. Donc, voilà le conseil d'administration de Switch. Isabelle, qui est ici présente, qui nous appelle, apporte toute son expertise. Yves Ranou, pareil, quelqu'un qui était dans le domaine de l'hydroélectricité, qui est venu nous appuyer. C'est aussi aller chercher des gens comme ça pour asseoir l'entreprise, apporter, partager notre vision, la diffuser. Il y a un vrai travail de positionnement de l'entreprise qui est très important. Bien sûr, il y a les financiers qui sont là. Puis après, il y a les copains, les présidents et directeurs généraux. Je n'y suis plus. Ça ne me pose pas de soucis. Je suis toujours présent en tant que censeur. Comme je disais, on n'a pas d'ego entre nous. Il fallait libérer des places pour avoir des gens, effectivement, comme ça. Donc, ça se fait. L'essentiel, c'est que la boîte avance. Hein. Après, ben, faut le financer, le mégawatt. Donc là, je vais peut-être passer un peu plus vite. Donc, il faut effectivement présenter une stratégie, présenter une volonté de se développer avec des objectifs. Une fois qu'on a des partenaires, il faut présenter une vision à des investisseurs. Les investisseurs, ils n'investissent pas sur ce qui existe, sur ce qui est déjà fait. Ils investissent sur demain. Donc, il faut se projeter. Il y a un gros travail à faire. Donc, nous, on en est aujourd'hui à cette phase-là, hein, qui est vraiment le scale-up, l'industrialisation. On a besoin de financer cette partie-là, mais on ne pourra la financer que si on est capable d'avoir une vision sur le déploiement de demain. C'est ça que les investisseurs vont venir chercher. Nous, on finance ça, mais eux vont viser là. Donc, il faut qu'on ait quand même cette projection en avant. Il faut toujours se projeter. Sans projection, il n'y a rien. On n'aurait pas un euro, on n'aurait pas un sou. Il faut être capable de porter cette vision-là. Donc, ça, c'est très important. Voilà un peu, ça c'est l'historique financier. Donc je parlais du 1,4 million qu'on avait levé avec Go Capital et Demeter. On était allé chercher 1 million d'euros en non dilutif. En 2020, on a fait une levée de 3,3 millions et on a levé encore 1 million, pratiquement 2 millions d'euros de non dilutif avec l'ADEME et BPI. 2022, on a levé 6 millions d'euros et 2,5 millions d'euros de non dilutif avec la communauté européenne. On a fait rentrer tout ça avec nos partenaires et on a fait rentrer deux nouveaux industriels qui sont CNR et EDF, qui sont des gens qui viennent de l'hydroélectricité et qui ont compris ce qu'était l'énergie osmotique et qui ont vu que ça pouvait être un vrai relais de croissance pour eux. Voilà, et ce qu'on vend comme ambition, hein, c'est ça, c'est un marché de 300 gigawatts, déjà deux partenaires identifiés, il y en a plein d'autres qui peuvent nous suivre, il y a Hydro-Québec, et l'énergie elle est partout à l'échelle de la planète, et nous notre ambition, c'est pas qu'une entreprise française, c'est vraiment, on veut être la première entreprise qui ait développé l'énergie osmotique sur la planète, l'ambition elle est à cette échelle-là, et ça ne pourrait pas se faire, si on disait, nous, on veut faire de l'énergie osmotique sur la Loire. ça ne serait pas suffisant. Personne ne nous croirait, ça n'aurait aucun intérêt. Donc on est obligé de se projeter, on est obligé de porter cette vision-là et de la partager. Voilà la roadmap, hein. 1 kW, donc ça c'est début 2023, voilà après ça va être les débuts avec la CNR, ce qu'on va aller mettre le premier module qui sera positionné à la CNR fin 2023, et puis après le 2024 on va aller atteindre le mégawatt. Les partenaires, je vais tout de même en parler. Donc le premier, c'était la CNR, alors c'est la Compagnie Nationale du Rhône. En fait, c'est une concession, c'est assez spécifique à la France. C'est entre Engie et les autorités locales et la Caisse des dépôts et consignations. Ils ont la concession d'exploitation du Rhône, le Rhône en tant que source d'énergie, donc c'est essentiellement l'énergie hydroélectrique. Ils avaient identifié l'énergie osmotique depuis très longtemps déjà, mais par contre n'avaient jamais franchi le pas et n'avaient pas vu de solution technologique. C'est eux qui sont venus nous chercher, CNR, et une fois que CNR est venu, c'est aussi EDF qui est venu nous chercher. Alors, ça peut déstabiliser une entreprise, nous on le prend plutôt comme une opportunité, et surtout on le prend dans le sens où ça nous oblige à accélérer, ça nous oblige à nous pencher en avant, donc c'est plutôt un moteur, on essaie de le voir de manière positive parce qu'ils sont tout de même arrivés très tôt. Ben voilà ce que ce qu'on projette, ce que pourrait être une centrale osmotique. Grosso modo, aujourd'hui, on est obligé de présenter des schémas comme ça pour que les gens conceptualisent bien les choses. Donc voilà ce que serait une centrale osmotique. On prendrait l'eau de rivière, on prendrait de la mer et on rejetterait l'ensemble dans l'estuaire. Donc ça, c'est la vision qu'on développe. La première, donc on aura un site normalement qui sera un premier site de démonstration à Barcarin, donc dans les Bouches-du-Rhône, qui va être lancé en fin d'année. Voilà, l'aventure ne fait que commencer. Et quelques petits messages qui sont importants, qui sont des valeurs qu'on a tous dans l'entreprise. Ça, c'est quelque chose de très important pour les jeunes. Just do nothing, it is impossible. Non, just do it, nothing is impossible. Croyez en vous. Si vous ne croyez pas en vous, vous croyez en personne. C'est très, très important. La science peut retourner, peut renverser des montagnes. Et l'intelligence humaine, elle a de la puissance, elle aussi. Beaucoup, en watts par mètre carré. Puis après, entre nous, les fondateurs, on a un petit jeu de mots. On est trois copains, trois associés. On se connaît depuis très longtemps. Et quand on a décidé de créer ça, c'était donc... Pascal est venu me chercher en tant que scientifique en 2013. Et on a un pari entre nous, c'est Big or No. Et on est bretons. Voilà.
Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.